DW. Droits et libertés.
L'Union européenne veut réguler le recours à l'intelligence artificielle. Le Parlement européen a même adopté un projet de loi en ce sens. L'UE se place ainsi en tête des efforts internationaux pour donner un cadre juridique à ces nouvelles technologies qui font irruption dans de nombreux domaines. Mais des organisations de défense des droits humains y voient une tentative de régulation manquée qui, en réalité, peut mettre en danger les droits et libertés fondamentales. On en parle cette semaine avec Katia Roux d'Amnesty International. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Lors de sa visite en Allemagne, le patron de l'entreprise californienne OpenAI, qui a mis sur le marché le générateur de texte ChatGPT, a mis en garde contre une hyper-régulation. Sam Altman, c'est son nom, a même menacé dans un premier temps de désactiver ChatGPT en Europe, des propos qu'il a ensuite retirés. La loi européenne qui devrait entrer en vigueur en 2025, si les 27 États membres de l'Union européenne l'acceptent, est le fruit de discussions qui ont duré 2 ans. Pour faire simple, l'idée de base est de diviser les logiciels d'intelligence artificielle en plusieurs groupes en fonction du danger qu'ils représentent. Alors certains systèmes d'analyse et de prévision des comportements sociaux des humains, par exemple, pourraient être interdits car jugés trop dangereux, tout comme d'autres usages qui seraient contraires aux droits humains, à la démocratie ou à l'état de droit. Néanmoins, ce projet de loi européen ne satisfait pas plusieurs défenseurs des droits humains. Parmi les associations qui se sont manifestées à ce sujet, citons Amnesty International. Katia Roux y est chargée de plaidoyer à Amnesty International France et elle est responsable des questions technologie et droits humains. Elle nous explique pourquoi ce projet de loi est insuffisant à ses yeux.
Alors, le fait que l'Union européenne souhaite réguler les systèmes d'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Et le fait d'adopter une approche par les risques, notamment sur les droits humains, est également une bonne chose. Il y a là l'occasion de véritablement encadrer, voire interdire les technologies parmi les plus dangereuses. Et aujourd'hui, finalement, le texte représente une occasion manquée, de notre point de vue, de pouvoir véritablement protéger les droits humains. Parce que si, sur le papier, il y avait effectivement des éléments visant à interdire la reconnaissance faciale à distance, en temps réel du moins, on se rend compte que les États membres de l'UE ont introduit tout un tas d'exceptions à cette interdiction, liées notamment à la sécurité nationale, qui en font en fait une interdiction illusoire. Si on interdit la reconnaissance faciale en temps réel, mais qu'on permet aux forces de l'ordre, dans un contexte de maintien de l'ordre, d'application des lois ou encore dans le contexte de migration, d'utiliser la reconnaissance faciale, il ne s'agit pas là d'une interdiction. Donc on a beaucoup entendu les législateurs se féliciter d'obtenir un accord politique autour de ce texte. Mais en réalité, le texte ne va pas assez loin si sa volonté est réellement de protéger et de garantir les droits humains.
Mais quelle est la différence, par exemple, avec des systèmes de surveillance par caméra dans les espaces publics tels qu'ils existent dans de nombreuses villes en Europe ?
Alors, il y a plusieurs systèmes, effectivement, qui peuvent être déployés. Ce qu'on appelle la vidéosurveillance classique, ce sont effectivement ces caméras qu'on peut voir un peu partout dans l'espace public et qui vont filmer avec un flux donc d'images qui va être analysé par des personnes. Ensuite, on va avoir la surveillance algorithmique. C'est encore différent. Ça veut dire que ce sont des algorithmes qui, à la place des personnes, vont analyser ces images issues des caméras et analyser les comportements. Ça peut être la démarche, ça peut être une gestuelle, vont essayer de repérer des situations considérées comme problématiques ou suspectes ou anormales pour les signaler à des opérateurs. C'est ce qu'on appelle donc la vidéosurveillance algorithmique. La France l'a légalisée à titre expérimental à l'occasion des JO et devient le premier pays membre de l'UE à le faire. Ensuite, la reconnaissance faciale, c'est encore autre chose. La reconnaissance faciale à des fins d'identification, c'est par exemple des caméras qui vont balayer l'ensemble des visages d'une foule. On peut imaginer par exemple pendant une manifestation, les scanner et comparer ces visages avec des bases de données qui contiennent des milliers, voire des millions de photos, dans le but d'obtenir une correspondance et d'identifier une personne. Mais nous considérons, Amnesty International, que la vidéosurveillance algorithmique, comme la reconnaissance faciale, permettent la surveillance de masse, c'est-à-dire une surveillance qui n'est pas basée sur un soupçon individualisé d'infraction, mais qui balaie l'ensemble en fait des visages en ce qui concerne la reconnaissance faciale ou des données comportementales des personnes. Et ça, c'est une ingérence dans la vie privée qui est quand même extrêmement grave et qui n'est jamais proportionnée. Or, le droit international dit que toute ingérence dans le droit à la vie privée doit être nécessaire et proportionnée.
Donc, si je vous comprends bien, le risque, c'est que tous les citoyens, toutes les citoyennes soient considérés a priori comme potentiellement dangereux, délinquants pour l'ordre étatique, la société, avant même que d'avoir fait quoi que ce soit.
Clairement, avec la reconnaissance faciale à des fins d'identification, on change en fait de paradigme. On est a priori suspect. On va essayer d'anticiper des crimes avant même qu'ils ne soient commis. Donc, ça veut dire essayer de déduire des intentions à partir d'une analyse de comportement, d'analyse de visage. Et ça, c'est une tendance qu'on observe partout dans le monde. Hein. De plus en plus, les gouvernements se tournent vers ces technologies de surveillance comme les réponses quasi systématiques aux enjeux sécuritaires, alors même que leur efficacité n'a jamais été prouvée et alors même que les risques en matière de droits humains sont très grands. Je parlais de la vie privée, mais effectivement, quand on devient tous potentiellement suspects, quand on est surveillé dans l'espace public, ça a aussi des effets dissuasifs très forts. Est-ce qu'on va s'exprimer de la même manière? Est-ce qu'on va réagir de la même manière? Non pas parce qu'on a quelque chose à cacher, mais on n'agit pas de la même manière lorsqu'on se sait, lorsqu'on se sent surveillé. Et le troisième point, c'est aussi l'aspect discriminatoire de ces technologies, c'est-à-dire qu'on nous les présente comme des outils neutres, mais ce sont des outils qui sont conçus par des humains, qui ont des biais plus ou moins conscients, et ces outils vont amplifier les biais. Nous, on a enquêté dans plusieurs parties du monde pour montrer comment la reconnaissance faciale pouvait amplifier, augmenter des discriminations existantes, basées notamment sur la couleur de la peau, le genre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça peut être une utilisation très répressive qui vise certains groupes de la population pour les contrôler davantage.
Ça voudrait dire que, par exemple, on programme les logiciels de façon à rechercher précisément quelqu'un qui a telle apparence, qui a telle couleur de peau ou tel trait de visage, c'est ça le risque?
Alors ça, c'est le risque effectivement un petit peu ultime. Hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Chine hein, avec les populations ouïghours. Hein. Alors on sait très très bien que la Chine, c'est le laboratoire de la surveillance. C'est toujours un peu l'exemple ultime qu'on donne, mais ça illustre néanmoins très bien l'usage extrêmement abusif qui peut être fait de ces technologies, c'est-à-dire effectivement les utiliser pour cibler certaines catégories de la population basées sur des données biométriques, des données personnelles sensibles qui doivent être protégées à des fins de contrôle social. Mais il faut aussi noter qu'il peut y avoir des biais discriminatoires dans la conception même des logiciels qui sont plus ou moins conscients, c'est-à-dire quand on va entraîner un algorithme à reconnaître une situation, par exemple, déterminée, on va l'entraîner avec des données. Et ces données, elles sont plus ou moins représentatives parce qu'il y a un choix humain des données qui vont entraîner l'algorithme. Et l'algorithme va, quelque part, reproduire les biais humains plus ou moins conscients. Et puis, il y a aussi comment toute l'infrastructure de surveillance peut être déployée. Nous, on avait enquêté à New York. On avait pu montrer, par exemple, certaines pratiques racistes de la police à New York. On a vu que toute l'infrastructure de surveillance et de reconnaissance faciale était principalement déployée dans les quartiers peuplés de personnes racisées.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de privatisation de la surveillance, grandissante en tout cas, ou même, peut-être même des services de police à terme, si toutes ces données sont collectées et la propriété d'entreprises privées, étrangères souvent, puisqu'il n'y a pas des développeurs d'intelligence artificielle dans tous les pays?
Alors, on voit bien que c'est un marché qui est en plein essor, effectivement, la question de la surveillance et des technologies de surveillance, un marché très concurrentiel. Et on le voit, hein, comment les acteurs publics ont de plus en plus recours à ces à ces technologies-là et se tourne vers les acteurs privés qui commencent à avoir un poids extrêmement important. D'ailleurs, on l'a vu dans le cadre de ce fameux règlement européen sur l'intelligence artificielle. Très rapidement, le narratif des industriels du secteur s'est imposé en disant que finalement, toute régulation va freiner l'innovation. Et c'était la raison invoquée pour ne pas mettre trop d'obligations aux développeurs de ces outils-là. Et ce sont nos données personnelles qui sont en jeu, ce sont nos libertés fondamentales qui sont en jeu, et ça, il doit y avoir une prise de conscience aujourd'hui de cet enjeu-là, parce qu'on sait qu'avec le déploiement des technologies de surveillance, on ne revient jamais en arrière.
Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ou citoyenne alors pour contrer cette évolution ou en tout cas participer activement à ce débat ?
Alors, je pense que déjà se sensibiliser à ces questions, c'est un premier pas très important parce qu'elles nous sont souvent présentées, ces technologies de surveillance, comme des réponses, hein, évidentes. On nous dit c'est utile pour lutter contre la criminalité, pour lutter contre le terrorisme, c'est nécessaire, et donc il n'y a pas de débat possible. Il doit y avoir un débat public sur cette question. Donc c'est important que le public s'informe, prenne conscience que ce n'est pas anodin comme sujet, que ça a des impacts sur les droits et les libertés de tous et de toutes. Ça, c'est la première chose. Et puis, on peut se mobiliser. Nous, on a, par exemple, une campagne internationale qui demande l'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification dans l'espace public. C'est une possibilité de montrer aux dirigeants qu'on est concerné, qu'on est inquiet, qu'il y a certaines lignes rouges qui ne sont pas possibles de franchir. C'est extrêmement important parce que pour le moment, c'est plutôt le discours des industriels qui l'emporte sans que jamais il ne soit remis en cause. Et il faut faire émerger ce débat public. Il faut créer de l'attention sur ce sujet. Il faut mobiliser pour que les technologies qui sont incompatibles avec les droits humains soient véritablement interdites.
Katia Roux, un grand merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Bernd Trigat et à Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Vous pouvez vous abonner au podcast de Droits et Libertés en vous rendant sur la plateforme de votre choix ou en allant sur notre site dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.